Ésaïe. Rappelons que Ésaïe a été découpé en 66 chapitres, autant de chapitres qu'il y a de livres dans la Bible. Et il y a un certain parallèle entre le livre du prophète Ésaïe et la structure de la parole, de la Bible, telle que nous l'avons maintenant. Et nous arrivons à des chapitres qui ne sont pas sans nous rappeler le livre de l'Apocalypse, la fin des temps. Il est curieux que souvent, nous pensons ne pas avoir le temps de penser à ces choses-là. Trop souvent, nous pensons que nous sommes trop occupés, trop de choses à faire, trop de rendez-vous, trop de responsabilités. Et pourtant, il n'y a que deux choses certaines dans la vie, les impôts et la mort. C'est une boutade pour les impôts, mais c'est une certitude pour la mort. Et devant cette certitude, devant cette dimension, on peut se demander: quel est le sens de la vie? Le sens de la vie. C'est une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Même les athées se posent la question du sens de la vie. Même ceux qui croient être le fruit du hasard. Le sens de la vie, le pasteur Chuck Smith disait, si vous souscrivez à la théorie de l'évolution, la réponse est évidente. Votre vie n'a aucun sens. Amen. Car votre vie, votre existence est le fruit d'un accident. Votre existence, écoutez bien, est le résultat de l'occurrence fortuite de circonstances accidentelles arrivées pendant des milliards d'années. Autrement dit, votre vie n'a aucun sens. Mais la parole nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme le sentiment de l'éternité. Ecclésiaste 3, 10. Au fond de chacun de nous, il y a le sentiment que notre vie doit avoir un sens. Même si on ne le comprend pas, même si on ne l'a pas saisi. Les scientifiques qui font de la recherche cherchent quelque chose, par définition. Même ceux qui se disent des fervents tenants de la théorie de l'évolution. Ce qui est un contraste, ce qui est une sottise en soi. L'évolution, c'est le hasard, il n'y a pas de cause. Mais ils recherchent quand même. Ils recherchent la cause qu'ils savent au fond d'eux-mêmes être dans l'absolu. Nous arrivons dans le livre d'Ésaïe à des passages qui nous éclairent sur ce sens de la vie. Toute la Bible répond à cette question: quel est le sens de ma vie? Je ne suis pas un accident cosmique, non, je suis une créature d'un Dieu qui m'aime. Et ça, ça fait toute la différence. Et ce Dieu qui m'aime, il est tout puissant. Il peut remédier à toutes les situations. Ce Dieu, il est tout puissant et il pourrait aussi bien ne pas nous aimer, mais il se trouve qu'il nous aime. Il a de bons plans pour chacun de nous. Et la Bible explique qu'il s'est révélé par l'intermédiaire du peuple juif qu'il a créé. Il a choisi un homme, Abraham. Et il a établi une relation avec ce peuple. Il a donné des oracles, il a donné des prophéties, il a donné des paroles. Mais la Bible nous explique aussi que ce Dieu créateur avait créé des anges dont un s'est rebellé contre lui, Satan. Et cet ange, depuis qu'il a été rejeté par Dieu pour sa rébellion, il n'a de cesse d'amener un peuple qui le suive, des gens qui l'adorent. Il a commencé dès le jardin d'Éden à tromper l'homme. Le péché est entré dans la race humaine lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Mais, parce qu'il nous aime, Dieu a décidé de venir sauver l'homme, la race humaine. Et c'est ce que nous avons célébré à Pâques. Jésus, le Fils de Dieu, est venu s'incarner. Il est venu sur la terre vivre la vie d'un homme parfait. Et il s'est offert en sacrifice parfait. Et si nous sommes, si nous croyons à ce sacrifice, à ce que nous dit la Bible, alors nous sommes au bénéfice de ce sacrifice parfait et nous sommes ce que la Bible appelle sauvés, sauvés de la colère, de la séparation d'avec toujours de la Bible. Et Dieu n'en reste pas là. Il a un bon plan pour l'homme. Il a parlé au peuple juif, le peuple juif l'a rejeté. L'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif qui rejette Dieu, Dieu qui intervient, qui envoie un prophète généralement pour essayer de rappeler le peuple à lui et qui rechute une fois qu'ils se sentent aimés de Dieu, confortables, ils repartent dans le péché. Cette vieille nature, cette nature de pécheur, elle est avec nous aujourd'hui encore. Mais, par le sacrifice de Jésus, nous pouvons mettre un terme à cette malédiction du péché. Lorsque nous acceptons Jésus, il est dit qu'il y a une nouvelle création, une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle va vivre éternellement avec Dieu. C'est ça le sens de notre vie. Dieu nous a créés pour avoir une relation éternelle d'amour avec lui. Nous vivons ici-bas comme une période d'épreuve, de test, voir si nous faisons vraiment confiance à Dieu, si nous croyons en lui, si nous alignons notre vie avec ses préceptes ou si nous le rejetons. Dieu nous a créés pour l'aimer, mais il ne veut pas nous forcer à l'aimer. Il nous laisse la liberté de choix. Parce que pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait liberté d'aimer ou de rejeter. La bonne nouvelle qu'on va voir un peu plus aujourd'hui, c'est que Dieu a prévu quelque chose qui dépasse notre imagination. Lorsque on entend parler parfois du paradis, on se dit... Être assis sur le bord d'un nuage dans une belle robe blanche en train de jouer de la harpe, qu'est-ce que ça va être barbant ? Admettez-le. Il y en a qui sont excités d'être assis sur de la ouate avec une vieille harpe dorée. Non, Dieu va préparer quelque chose qui va nous époustoufler. Il est dit qu'il, Jésus nous a dit qu'il allait préparer une maison, une demeure pour nous, pour chacun de nous. Et quelquefois, on se dit, mais la promenade des Anglais, par un beau jour de printemps, moi, ça me suffit. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. Mais dans la parole même, il est dit, nous allons le voir, Dieu, personne n'a vu ni entendu ce que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Et ça, ça doit être quelque chose qui sous-tend notre vie. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est ce que disait Woody Allen. Et l'existence terrestre, les 80 ans, les 120 ans, si on veut essayer de titiller les records de longévité, c'est rien du tout par rapport à l'éternité. On voit que le temps passe de plus en plus vite au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. Une journée pour un nouveau-né, c'est très long. Pour un adolescent, c'est pas beaucoup. Pour un adulte et quelqu'un de plus âgé encore, c'est rien du tout. Et ça va très vite. Personne ne sait le moment où nous allons quitter cette vie. Le monde entier est sous le choc de cet accident d'avion qui a, d'un seul coup, éliminé ou pris la vie du président de la Pologne, de son gouvernement, de ses attachés, en un instant. Et c'est pour ça que nous devons être préparés. Et c'est pour ça que nous étudions la parole, pour comprendre ce que le Seigneur nous apprend. Nous avons vu la semaine, il y a deux semaines maintenant, que le peuple de l'Ancien Testament, notamment Juda, on vous rappelle qu'il y avait le royaume d'Israël s'était séparé en deux, il y avait le royaume du nord, le royaume du sud. Le royaume du nord a été emmené en exil très tôt, le royaume du sud, Juda, a été emmené plus tard par Babylone. On étudie ça le mardi soir avec le livre de Daniel. Et ce peuple est réconforté par le prophète. Le prophète annonce qu'il va y avoir un exil s'ils ne se repentent pas, ce qui va se passer, et que cet exil ne va pas durer pour toujours, mais que Dieu va les ramener et qu'il va se montrer encore une fois bienveillant avec eux. Nous avons vu au chapitre 63 qu'il y a ceux qui continuent de rejeter Dieu seront finalement victimes de sa colère. Aujourd'hui, c'est le temps de sa patience. Dieu merci. Parce que s'il était revenu il y a 30 ans, je ne serais pas sauvé. S'il était revenu il y a 10 ans, peut-être que certains d'entre vous ne seraient pas sauvés. Maintenant, c'est le temps de sa patience. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, nous dit l'apôtre Paul, et qu'ils soient sauvés. Et au chapitre 63, nous avons vu la même chose que nous voyons dans l'Apocalypse, c'est qu'il y a un moment où cette grâce, cette patience va arriver à son terme, et là, la colère de Dieu va tomber sur la terre. La parole, notamment dans les passages de Thessaloniciens, de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, des deux lettres de Paul, dans l'Apocalypse, nous explique que Dieu, à la fin des temps, va venir chercher par Jésus, va chercher son Église. Ceux qui sont à lui vont être enlevés. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, pour être avec lui pour toujours. Et que Jésus va, qu'il va y avoir alors sur la terre une période, ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Si vous pensez que les choses vont mal aujourd'hui, vous n'avez encore rien vu. Il suffit d'aller dans l'Apocalypse, lire les passages qui décrivent les catastrophes, cataclysmes qui vont tomber sur la terre. Aujourd'hui, il y a des cataclysmes de plus en plus fréquents et la Bible nous dit que c'est l'annonce que ce temps de la fin arrive. Le calendrier de l'histoire arrive au dernier feuillet. Et une fois que l'Église aura été enlevée, cette période de grande tribulation va arriver sur la terre. Il va y avoir l'arrivée de l'Antéchrist, un homme d'une sagesse charismatique incroyable, qui va donner l'impression à la terre qu'il va régler tous les problèmes, mais qui va vouloir se faire adorer à la place de Dieu dans le temple reconstruit à Jérusalem. Et puis, il va y avoir la bataille d'Armageddon. Lorsque nous irons en Israël en février prochain, nous irons voir cette vallée d'Armageddon. Armageddon, ça veut dire la montagne, la colline de Megiddo. On va voir cette région. Et dans cette bataille, les forces opposées à Dieu de toute la terre vont s'opposer à Jésus, qui reviendra et qui va pas se laisser faire. Nous sommes du côté du vainqueur final. C'est lui qui va remporter la coupe. C'est lui qui sera champion des mondes. Et une fois qu'il aura gagné cette victoire, il va établir un règne de 1000 ans, ce qu'on appelle des fois le millénium. Nous allons revenir avec lui, transformés, parce que nous aurons été enlevés, que nous aurons un nouveau corps, probablement une nouvelle structure moléculaire, comme le corps de Jésus qui lui permettait de passer à travers les murs après sa résurrection. Nous ne mourrons jamais plus. Par contre, pendant cette période de 1000 ans, des personnes viendront à croire en Christ et eux vivront et mourront. On va en parler. Et je veux replacer la chronologie. Cette chronologie est contestée par certains. C'est pas si grave que ça, parce que ce qui compte, c'est que vous mettiez votre foi en Christ. Mais cette chronologie, c'est la seule qui tienne la comparaison avec tous les textes bibliques. Certains disent que le millénium, c'est maintenant. Je regrette, si c'est ça le millénium, alors nous avons besoin d'un autre temps. On voit les persécutions, on voit les morts, on voit les famines, on voit les tremblements de terre. C'est pas ça le millénium. Dieu, Jésus va régner pendant ce millénium sur les bons qui viendront à lui. Nous l'aiderons en tant que personne ayant été enlevée, de membre de son Église au moment de l'enlèvement de l'Église. Nous l'aiderons à régner et à gérer. Nous n'allons pas nous embêter sur un nuage blanc. Vous pensez avoir du travail maintenant, vous en aurez peut-être plus à ce moment-là, mais vous aurez des capacités beaucoup plus développées. Vous aurez l'aide de Jésus en personne, présent sur la terre. Et puis, la Bible nous dit qu'à la fin de ces millénium, de ces 1000 ans, Satan, qui a été mis en prison, sera libéré. Il entraînera encore une rébellion. L'homme est toujours libre de se rebeller. À cette époque-là, il y aura une rébellion. mais Dieu en finira en mettant Satan et tous ceux qui le suivent et l'auront suivi dans le lac de feu de l'enfer. Et c'est à ce moment-là que descendra, que Dieu recréera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pierre nous le décrit, l'apôtre Pierre nous le décrit dans 2 Pierre, on peut regarder maintenant. 2 Pierre 3:10, c'est page 268. Verset 10, il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur », c'est-à-dire sans prévenir. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il ajoute verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et là, dans ces deux versets, on voit la raison pour laquelle il est important de lire l'Ancien Testament, de lire l'Apocalypse, de comprendre ces choses. Ça a une conséquence directe sur la façon dont nous vivons. On peut se dire, oh là là, Ésaïe, c'est tellement vieux. Qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Qu'est-ce que ça a à faire avec ma vie au 21e siècle, nom d'un chien? On est quand même évolué maintenant. Non, si vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas les enjeux. Vous devez connaître les enjeux. Et c'est ce que Pierre décrit, c'est ce que Jean décrit dans l'Apocalypse, lorsqu'il dit qu'il va y avoir des nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est ce qu'on appelle l'état, des fois on parle de l'état éternel par opposition au millénium, où l'Église reviendra à la suite de Jésus pour régner sur la terre, à la fin, période à la fin de laquelle Satan sera définitivement mis hors d'état de nuire pour l'éternité, et où l'éternité avec Dieu, quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui est impossible à concevoir en détail, mais nous devons avoir cette confiance que ce futur, il est glorieux, il est merveilleux, il satisfera toutes vos attentes au-delà, infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Vous pensez peut-être à des bonnes choses, vous dites « Ah, un lac de montagne avec des truites qui sautent et qui se laissent attraper pour un bon petit déjeuner le matin ». Ces choses-là pâliront, seront nulles. Regardons un peu le texte. Je voulais juste faire un petit panorama parce que sinon, beaucoup de personnes se découragent, ne comprennent rien et laissent tomber. Encore une fois, c'est toute la Bible qu'il faut étudier pour comprendre les choses. Pas seulement un petit passage à droite ou à gauche. Tel petit dada que tel pasteur va s'acharner à prêcher. Non, c'est toute la lumière de toute la parole de Dieu, le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu. On continue au chapitre 64, la prière qui avait été commencée par les rescapés ou ceux qui allaient être rescapés de l'exil de Babylone. Nous avons vu que au chapitre 63, que chapitre 59, que c'est nos péchés qui ont fait un mur entre Dieu et les hommes. Et ce sont nos péchés qui nous cachaient la face de Dieu. Ésaïe 59, 2. Ce sont nos fautes qui mettaient une séparation. Et là, les futurs rescapés de Babylone disent « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi lorsque tu fis des choses terribles que nous n'attendions pas. Tu descendis, les montagnes s'ébranlèrent devant toi. » ils font appel à l'intervention miraculeuse de Dieu lors de l'exode d'Égypte. Et là, il y a ce passage que Paul reprend. « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre que Dieu que toi agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. » C'est le passage que l'apôtre Paul reprend dans 2 Corinthiens. « Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu qu'un autre que Dieu, un autre Dieu que toi, agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. » Dieu agit de façon miraculeuse pour celui qui prend le temps de prier, le temps d'étudier la parole de Dieu, le temps de s'attendre à Dieu. Trop souvent, on est dans l'activisme. Dieu peut faire en 5 minutes ce que j'essaye de faire en 20 ans. Et les 2 premières minutes de ces 5 minutes, ça va être pour défaire les bêtises que j'ai faites pendant 20 ans. Dieu peut causer un réveil en France en quelques semaines. Est-ce que nous prenons le temps de prier pour lui demander le réveil ? Est-ce que nous prenons le temps d'apprendre, d'étudier sa parole pour voir comment il a agi dans le passé, comment d'un seul coup il peut ouvrir les portes ? Verset 4, « Tu allais à la rencontre de celui qui pratiquait la justice avec joie, de ceux qui te rappelaient tes voies, par qui de tout temps nous étions sauvés, mais tu t'es indigné parce que nous avons péché. » Nous arrivons au verset 5 à un verset difficile. Un verset dont le langage est choquant. Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Quelqu'un a chanté ça. Ça vient, l'idée de ces feuilles qui s'envolent au vent, c'est là, ça vient, au départ. Nous sommes tous devenus comme un objet impur. Nos meilleures actions sont comme un vêtement pollué. Les traductions ne font pas justice au texte original. Une meilleure traduction, il n'y a pas trop d'enfants ici, on dirait nos meilleures actions sont comme un vieux tampax jeté à la poubelle. Le vêtement pollué dont il est question, c'est le vêtement souillé menstruel, par le sang menstruel. C'est très, très fort. Je vous le dis parce que vous êtes des adultes et parce que vous devez savoir quelle est l'horreur de Dieu devant les actions des hommes non sauvés qui essayent de dire « Ma vie n'est pas si mauvaise que ça après tout. » Je vis de façon honorable, honnête. Je donne pour le Téléthon. Je ne triche pas trop sur mes impôts. Je n'ai jamais tué personne. Je suis une bonne personne. Si vous croyez être une bonne personne, demandez à Manu et Maria de vous donner un petit traité. Nos meilleures actions sont une abomination devant Dieu. c'est difficile pour l'homme naturel de l'admettre, parce que c'est très humiliant. Mais en même temps, si l'on réfléchit, pourquoi faisons-nous des bonnes actions lorsque nous ne sommes pas encore sauvés? On peut donner de l'argent à une bonne cause pour se donner bonne conscience. J'ai donné pour Haïti, maintenant je peux aller m'empiffrer et manger des choses très chères dans un restaurant très chic. On peut faire des bonnes actions pour notre propre réputation. Ah oui, monsieur Untel, c'est un monsieur très bien. Une bonne famille, des gens très, très respectables. On peut faire des bonnes choses pour des mauvaises raisons. Et toutes ces choses ne servent à rien. C'est un peu comme quand on joue au Monopoly. Je me rappelle de l'âge où je jouais, il fallait que je parlais du billet rouge ou du billet vert. Je connaissais pas, je savais pas lire, mais je jouais déjà au Monopoly. Vous avez sans doute joué au Monopoly. Vous savez que vous pouvez avoir une tonne de billets. Ça vous sert à rien lorsque vous allez au marché. C'est la même chose avec vos bonnes actions. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne doivent pas faire de bonnes actions? Non. Le danger, c'est qu'ils mettent leur confiance dans ces bonnes actions pour croire qu'ils méritent l'amour et le pardon de Dieu. Tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué, pour reprendre l'expression modérée. Pensez si nos bonnes actions sont comme ce qu'on a décrit. Qu'est-ce que nos mauvaises actions doivent être pour Dieu ? Dieu ait pitié de nous. Et il a eu pitié de nous. La seule raison pour laquelle nous devons faire de bonnes actions, la seule qui soit valable aux yeux de Dieu, c'est si ces actions sont motivées par notre foi en Christ. Toutes vos bonnes actions, elles comptent pour du beurre qui va vite fondre à la chaleur de l'enfer. Aux yeux de Dieu, les seules actions qui vont être prises en compte sont celles que vous ferez une fois que vous êtes sauvés. Le salut vient par la foi. Et la foi automatiquement va entraîner des œuvres. Si vous venez à Dieu, votre argent de Monopoly, d'un seul coup, ça devient de l'argent de la Banque de France ou de la Banque européenne. De la Banque de Grèce. Non. Ça devient du sérieux. Ça devient quelque chose qui a un sens, une raison. Et les rescapés réalisaient cela. Les futurs rescapés de Babylone réalisaient qu'en fait, toutes les actions religieuses, tous les rituels, tous les actes de générosité, tout ça, ça comptait pour rien. C'était une horreur pour Dieu. Verset 6, « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de ton nom, de nos fautes, pardon. » Dieu voit nos cœurs. Il voit à travers le mensonge de nos bonnes actions, prétendues bonnes actions. il voit les motivations qui font que nous nous comportons comme des gens bien, de bonnes personnes. Il cherche notre cœur et il voit qu'il n'y a personne parmi ces gens qui cherchaient vraiment Dieu. Tu nous as laissé tomber en défaillance, pas parce que tu es mauvais, mais à cause de nos fautes. Et puis, il reprend avec espoir, « Cependant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi notre potier. » On a déjà vu cette appellation, le fait que ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que Dieu devient notre Père. Il est déjà décrit dans l'Ancien Testament, notamment ici, comme notre Père. Des enfants peuvent s'éloigner de leurs parents. Un fils peut commettre des choses horribles qui déshonorent le Père, mais il n'en demeure pas moins que le fils reste le fils de son Père. Et là, Ésaïe, c'est un peu comme s'il dit « Tu ne peux pas te débarrasser de nous si facilement. » Avec beaucoup de respect, en faisant appel à l'amour du Père. Et puis, il prend l'image qu'on rencontre à plusieurs reprises dans la Bible de l'argile et du potier. Nous avons un ami qui vient assez régulièrement, un pasteur américain qui est aussi un potier, qui fait une présentation de l'évangile, de la Bible, avec un tour de potier et en montrant l'argile qu'il façonne à sa guise. Paul disait que ce qui a été créé par le potier, le vase ne peut pas se rebeller contre le potier. Le potier, c'est le patron. C'est lui qui décide ce qu'il va faire de ce tas d'argile. C'est lui qui décide de ce qu'il va faire de chacun de nous, de ce qu'il voudrait faire de chacun de nous. Et c'est lui qui se met à l'œuvre. Et de la même façon qu'un père ne peut pas renier son fils, un potier ne peut pas dire qu'il n'a pas fait tel vase. Même si le vase est de travers, il peut le casser, mais c'est quand même lui qui l'a fait. Et Ésaïe plaide avec Dieu. « Ne te mets pas, verset 8, dans une indignation extrême au Éternel, et ne te souviens pas toujours de la faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. » Ne te souviens pas toujours de la faute. Nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont devenues un désert. C'était après l'exil, la dévastation. Sion, la colline de Jérusalem, de laquelle régnait David, historiquement, Sion est devenue un désert. Jérusalem est une désolation. Notre temple saint et splendide où nos pères célébraient tes louanges est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été ruiné. On fait allusion au roi Nabuchodonosor, dans l'étude du livre de Daniel le mardi soir. Et on sait que les troupes babyloniennes ont détruit le premier temple. On sait aussi que en l'an 70, les armées romaines, sous la direction du général Titus, de l'empereur Vespasien, Titus qui est devenu empereur à son tour, a détruit complètement le temple. Et cette prophétie s'est aussi réalisée à cette époque, en l'an 70 de notre ère. Pas une pierre, Jésus lui-même disait que pas une pierre ne resterait dessus. C'était après que Jésus soit venu. Et c'est vrai que historiquement, on sait que lorsque on a mis le feu au temple, la chaleur a fait fondre l'or qui recouvrait beaucoup des éléments de ce temple, des ustensiles, et que l'or, en fusion, a coulé et s'est infiltré dans les pierres, et que les soldats romains ont renversé toutes les pierres, ont mis à bas toutes les structures de pierre pour retrouver l'or. Et donc, le temple a été complètement dévasté à cette période. Il est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été ruiné. Encore une fois, les prophéties de la Bible sont la façon dont Dieu authentifie son message. Il veut que nous sachions que ce message n'est pas une invention humaine. Donc, il met des choses qui vont arriver dans le futur, dans sa révélation. Et il est le seul à pouvoir faire ça. Les gens lisent leur horoscope. Et on peut toujours penser que oui, vous aurez des difficultés cette semaine. Ah ben zut alors. Ça ne va pas être tout rose. Surprise. Nous vivons dans un monde où rien n'est rose. Où rien n'est tout rose. Les diseuses de bonne aventure, elles jouent sur vos peurs, sur vos appréhensions. Satan lui-même peut inspirer ces personnes. Et c'est pour ça que des fois vous dites, oui, mais ils m'ont dit des choses que je savais seul. Seul je savais ces choses-là. Non, Satan est un ange puissant et il peut révéler à certaines personnes des choses que vous êtes seul à connaître. Pourquoi ? Parce que de cette façon, vous allez être attiré par l'occulte, vous allez être attiré par les horoscopes, toutes ces choses qui sont une abomination devant Dieu, parce que ça veut dire que vous ne faites pas confiance à Dieu pour votre futur. Devant tout cela, Éternel, te contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas et nous humilieras à l'excès ? Ésaïe continue, il prie, il demande vraiment que Dieu intervienne, qu'il cesse cette colère qu'il a commencé à manifester par son silence. Et nous allons voir la semaine prochaine comment Dieu va répondre. Et c'est là qu'on entrera dans les différences entre la période de 1000 ans et la période éternelle, une fois que les cieux et la terre auront été détruits et refaits. Mais Dieu va répondre lorsque l'homme s'humilie, lorsque l'homme s'attend à lui. Si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, il faut que vous soyez capable de dire « Mes actes de justice, ils sont pas bien beaux. » Une fois que vous connaissez Jésus, ses actes de justice, ils doivent être inspirés par l'amour et la foi. Vous connaissez l'histoire, vous avez compris enfin comment ça se passe. Vous avez compris le sens de votre vie. Le sens de votre vie, c'est pas de vous goinfrer égoïstement de bonnes choses, d'accumuler, de maximiser les possessions, les joies, les plaisirs, les voyages, les voitures, les femmes, la célébrité. Non, vous n'aurez pas la plénitude tant que vous ne viendrez pas à Jésus. Tant que vous ne réaliserez pas que toutes ces choses sont tellement temporaires et qu'il y a une éternité qui vous attend avec Dieu si seulement vous écoutez Dieu, si seulement vous venez à lui dans la repentance et vous lui dites « Ma vie t'appartient, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Et dans cet abandon à Dieu, vous allez trouver la joie. Vous allez trouver la plus grande des libertés. Vous n'avez plus à vous soucier du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen.